Je voudrais profiter du privilège de l'âge d'être probablement la personne la plus âgée de cet auditoire, puisque je suis née en 1919, pour remercier profondément Catherine Dolto et tous ceux qui l'ont aidée pour avoir organisé ces trois merveilleuses journées, et aussi pour lui faire une demande. On ne peut pas recommencer un centenaire de Françoise Dolto tous les ans, puisqu'elle est née cette année, il y a 100 ans, et pas l'année prochaine. Mais ce serait quand même important d'organiser de temps en temps des réunions Dolto de par le monde et en France. Et pour beaucoup de personnes comme moi et bien d'autres, Willy Barral et beaucoup d'autres, Françoise Dolto, dans sa manière d'écouter à partir de l'inconscient de l'enfant ou de l'autre, a créé et apporté quelque chose de fondamental. Et pour moi, si on ne peut pas enlever à Freud la découverte de l'inconscient, Françoise Dolto a donné un apport aussi important que celui de Freud, et il faudrait aider à ce qu'elle reste présente et qu'elle soit représentée régulièrement dans les médias, et que des rencontres comme celle-ci recommencent de temps en temps. S'il vous plaît, faites quelque chose pour la reconnaissance de Françoise Dolto dans les années à venir et pour les générations à venir. Merci beaucoup.
Bien, donc, avant de se séparer, puisque et séparer, c'est pas n'importe quel mot pour la psychanalyse. Avant de se séparer, donc quelques mots pour conclure. Conclure, c'est un bien grand mot, hein, mais enfin surtout pour ouvrir et précisément peut-être pour laisser quelque chose d'un fil qui pourrait continuer à fonctionner. On a déjà avec quelques-uns un projet de journée scientifique d'ici un an environ à Paris. Pourront s'y associer ceux qui sont intéressés et vous serez informés puisque évidemment les archives et tout le collectif y sera associé. Alors, ce que je vais dire n'est pas non plus une synthèse, je ne citerai personne parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants et je me référerai, vous l'entendrez, à tous parce qu'ils sont tous été assez exceptionnels. Je trouve que ça a été pour moi, de la salle, trois jours tout à fait exceptionnels. Les intervenants ont été magnifiques puisqu'on en est aux applaudissements. Je propose qu'on les applaudisse parce qu'ils ont tous globalement été remarquables. S'ils ont été remarquables, c'est aussi, bien sûr, parce que c'est toujours comme ça, c'est aussi grâce à vous, car il n'y a pas de parole qui vaille si elle ne trouve un lieu d'adresse, et vous avez été formidables, attentifs, mais oui, attentifs, soutenants, questionnants, et très mobilisés, nous tous mobilisés, finalement, autour d'un même souci, et ce même souci porte un nom, finalement, Françoise Dolto. D'une certaine façon, je parle, je m'avance, mais je suis sûr qu'ils sont d'accord avec moi, tous mes collègues du comité d'organisation. Je crois que ces journées sont un succès, Catherine le dira certainement encore mieux tout à l'heure, parce que le programme qu'elle avait annoncé au début et qui était le souhait que nous avions, que ce ne soit pas des journées hagiographiques, ni une commémoration, qui est toujours une façon quand même d'enterrer les choses, mais que ce soit au contraire l'ouverture d'une réflexion critique sur Dolto aujourd'hui, dans la modernité, et les questions qui se sont ouvertes. Et je crois d'ailleurs que on peut dire véritablement que ces journées Dolto ont été des journées pour la psychanalyse. C'est-à-dire qu'on est passé vraiment de quelque chose autour de Françoise Dolto à quelque chose d'une façon plus générale sur la question de la psychanalyse dans notre culture, dans notre monde, et sur la question de son avenir. Alors, nous avons été rassemblés autour d'un nom, Françoise Dolto, et je me suis demandé, Françoise Dolto, et il me semble que ça a été tout le parcours de ces journées, qu'est-ce que ça veut dire, Françoise Dolto? Des noms propres, ça veut rien dire, mais enfin, ça indexe quelque chose. Et je me disais d'ailleurs, les deux phrases qu'on pourrait retenir de ce qui vient d'être dit sur le... Magnifiquement, je trouve que c'est une très belle définition de la psychanalyse, que ça permet une manœuvre pour explorer sa marge de liberté, Voilà, c'est dit quelque chose d'extrêmement juste sur l'analyse. Et également, l'autre paradoxe dans lequel la psychanalyse s'est trouvée prise, parce qu'il faut pas non plus être dans une position de belle âme, où nous aurions un dehors extraordinairement mauvais dans un monde qui s'assombrirait de jour en jour et la psychanalyse serait la position la plus pure, la façon dont la psychanalyse a collaboré à ce paradoxe dans lequel elle a été prise et qu'elle n'a pas toujours pu lire d'emblée, qui est effectivement une fonction de suppléance, par exemple, de celle de la démission parentale, qui est un fait de culture, un fait d'histoire, dans lequel nous avons tous été pris, et je trouve que c'était très justement dit par Anne Roumanoff tout de suite. Donc il y a deux choses au moins pour Françoise Dolto. Tout d'abord, bien sûr, ça a été largement rappelé, mais il faut encore le dire, c'est celle qui a inventé la psychanalyse d'enfants en France. Elle n'a peut-être pas été la première, mais elle a été la pionnière, indiscutablement. Certes, il y a Sophie Morgenstern à l'origine, et il est difficile, même si au niveau des dates, il y avait déjà des analystes d'enfants en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, mais il faut savoir que les textes n'étaient pas traduits et que les connaissances même concernant les travaux qui avaient lieu étaient passées en France de façon extrêmement difficile pour des tas de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Donc, elle a littéralement réinventé la psychanalyse d'enfants, c'est une leçon, hein, c'est-à-dire elle l'a pas importée, elle l'a réinventée, elle le raconte très bien, elle dit qu'elle a commencé simplement par allonger les enfants sur le divan. Oui. Donc elle a vraiment démarré, la psychanalyse c'est ça, je fais pareil, et dit-elle, le problème c'est que quand on les allonge sur le divan, ils font deux choses, soit ils s'endorment, soit ils se masturbent. Donc il fallait trouver autre chose, dit-elle, et elle dit que c'est comme ça qu'elle a eu l'idée. Mais c'est très important, ça dit quelque chose précisément de ce qu'il en est et de la motricité et du rapport de l'enfant à la jouissance, il y a là quelque chose d'important. Et elle a introduit le dessin, puis la pâte à modeler, qu'elle a traité toujours, et c'est ce qui fait la particularité, je crois, très forte de Françoise Dolto, c'est différent par exemple ce qu'a fait Pucher Winnicott avec ça, qu'elle a traité comme des écritures. Elle a ramené à l'écriture, c'est pas ce que je développerai aujourd'hui, mais je pense que par exemple, si on fait un travail plus précis sur les textes, dans un autre temps, qui ne devrait pas être trop loin, je crois que la suggestion d'Anne Ancelin doit être suivie, je pense qu'il y a là quelque chose à reprendre. Elle a inventé une manière, avec la pâte à modeler, avec le dessin, et surtout avec la parole de l'enfant, le dessin pour parler, disait-elle. Et puis aussi, ce qui est une spécificité de la psychanalyse d'enfants à la française, ça ne se fait pas nécessairement ailleurs de cette façon-là, ou en tout cas, on ne dit pas qu'on le fait de cette façon-là ailleurs, c'est la présence des parents. Pas des parents simplement, comme pouvait dire quelqu'un comme Frances Testine, qui dit « je reçois les parents simplement pour faire de la suggestion qu'ils n'arrêtent pas le traitement de leur enfant », mais des parents avec qui on travaille. Elle dit très bien qu'au début, c'est une consultation publique à trousseau, elle reçoit les parents comme un médecin reçoit les parents, et que pour qu'ils reviennent, comme ils viennent voir un docteur, il faut une prescription. Et elle le dit très bien, les prescriptions, ce sont les petits conseils qui ont une telle fortune dans le public, concernant le sommeil, concernant un certain nombre de choses, et qui ont comme fonction avant tout d'assurer le transfert, disait-elle. Mais au total, Françoise Dolto sur ce plan, on y reviendra peut-être un petit peu, c'est une leçon de rigueur, ça a été dit très bien, pas de bons sentiments, pas de gnagnasserie, comme même dire Catherine. La question, c'est pas un message d'amour pour les enfants, c'est un axe rigoureux, et la psychanalyse. Et puis, Françoise Dolto, ça veut dire aussi autre chose, et je crois que ça veut dire aussi autre chose, qui a été, je crois, mis au travail d'une façon large, approfondie, donc moi je vais vraiment survoler, c'est une question politique et sociale qui s'est aussi condensée dans son nom. La question de l'enfant dans la cité et de l'enfant dans la famille, c'est une question historique. Une figure d'exception, ça n'arrive pas n'importe comment. On a dit le premier jour que dans la psychanalyse, et c'est vrai, si on relit les textes des premiers analystes d'enfants, au début du XXe siècle, il n'était pas question de remettre en question les parents. Les parents, c'était comme ça, ils n'étaient pas discutables. Qu'elles introduisent les parents dans le traitement, qu'elles disent même qu'on ne puisse pas commencer une analyse tant qu'on n'a pas interrogé le dit des parents, je veux dire, ça, c'est pas seulement quelque chose qu'elle a apporté, c'est aussi quelque chose qu'elle a incarné comme manifestant une mutation, parce qu'elle s'est trouvée à ce moment-là, dans la transmission entre les générations. Ça s'est incarné en elle, et elle a su l'articuler, c'est au fond le travail des analystes. Ce qui continue d'ailleurs, je crois, et c'est véritablement le problème, cette mutation, sur ça je voudrais dire quelques mots rapides, schématique même, je voudrais continuer de développer ou de dire rapidement. Qu'est-ce que c'était l'enfant jusque-là? Adulto, au fond, son activité majeure, elle commence dans les années 40 et ça se développe beaucoup après-guerre. Et son intervention dans le social, c'est dès les années 45, les articles dans Femmes françaises, etc. Bien, l'enfant jusque-là, c'est une figure sauvage à éduquer. Je rappellerai historiquement que la psychiatrie de l'enfant va mettre un siècle à commencer après la psychiatrie de l'adulte. Pendant un siècle, les enfants n'ont comme classification que une classification déficitaire en termes de débile. D'ailleurs, tous les mots viennent de là, imbécile, idiot, crétin, etc. C'était aujourd'hui, ce sont des insultes. C'était des classifications qui concernaient les pathologies d'enfants et c'était simplement le rôle des éducateurs de s'en occuper. Clarapède, etc. Enfin, bref, et la psychiatrie de l'enfant a commencé, et je crois que c'est pas par hasard, en même temps que la psychanalyse. À la fin du XIXe siècle, le premier grand traité, c'est Moreau de Tours. Vous voyez, c'est pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe au milieu du XXe siècle? Il y a d'abord l'effet, quelque chose sur quoi Lacan a beaucoup insisté, qui n'est pas négligeable, parce que nous devons prendre la mesure de la façon dont, aujourd'hui, par exemple, avec nos trois journées, nous fabriquons des résistances à la psychanalyse dans sa diffusion dans la culture, mais qu'en même temps, c'est incontournable et que nous ne pouvons pas ne pas le faire. C'est indispensable. Ça fait partie du jeu, mais ça fait partie des conséquences imparables qui ont modifié même un certain nombre de formes cliniques dans la culture. C'est aussi l'effet de la guerre, des guerres du XXe siècle, et l'effet, bien sûr, l'effet majeur de l'avancée de la science. Un problème majeur, donc, de transmission entre les générations. Et de plus en plus, on l'a entendu hier très bien, l'éducation, tout ce qui relève de l'élevage de l'enfant est délégué à l'extérieur. L'effet de l'avancée de la science, qui pour Lacan était vraiment la coupure majeure entre l'ancien monde et le monde moderne, est lié à la démocratie. L'un procède de l'autre et au capitalisme. Il y a une articulation. C'est la science qui produit, comme dirait Brecht, homme pour homme. Un homme voit un homme. Mais au nom, bien sûr, ça a été aussi rappelé, au nom de la mise en espèce, voire de ce que Foucault avait montré, qui était la mise en population. C'est pas un hasard, rappelle Foucault, qu'au milieu du XVIIIe siècle, d'un seul coup, apparaît, pour la première fois dans l'histoire, le premier programme public d'hygiène des populations. Et l'apparition du mot population qui n'existait pas dans la langue jusque-là. Désormais, nous sommes un élément de la population, et désormais, c'est le régime dont on nous a parlé très bien à plusieurs reprises au cours de ces journées, c'est le régime du biopolitique dont parlait Foucault, puisque d'un seul coup, l'État pense qu'il a à prendre soin de nous. Et ça a une rançon. Il doit prendre soin de nous, évidemment, avant tout pour assurer la permanence de la machine de production. C'est pas complètement désintéressé, et c'est un élément très important. Mais le changement incarné par Françoise Dolto, il est lié à un autre événement majeur de l'après-guerre, qui est la décolonisation. La décolonisation change un regard qui était très important sur le primitif, et c'est un regard concomitant sur l'enfant. Le primitif, le sauvage, il était conçu comme un enfant à éduquer. Or, qu'est-ce qui se passait dans la colonisation dont on voudrait nous vanter les bienfaits? Eh bien, d'un seul coup, l'effet des colonisations, on fait sauter le bouchon, d'une des figures du nom du père dans une culture, c'est-à-dire, et au fond, c'est ce qui s'est passé chez nous aussi, l'affaiblissement de la fonction paternelle, pour des tas de raisons, et c'est remplacé par quoi? Par un ensemble de savoirs. Et l'ensemble des savoirs, la médecine en fait partie dans notre culture, etc., est-ce que ça fait tenir le social? C'est la question à laquelle nous sommes, en fait, maintenant, confronté d'une façon extrêmement brutale dans ce moment-là. Or, ce mouvement est extensif, on l'a entendu, puisque on nous a expliqué qu'on allait de plus en plus légiférer dans la sphère privée. Il y a quelqu'un comme Walter Benjamin qui trouvait qu'il y avait des méthodes, disait-il, d'accord social, qui étaient des accords qui se produisaient dans les lieux où on ne légiférait pas. Il donne un exemple qui est le mensonge. Il dit le mensonge, c'est permis dans la sphère privée, enfin au moment où il écrivait le texte. Il dit, si demain on légifère sur le mensonge et qu'on interdit le mensonge dans la sphère privée, on supprime une technique de pacification, une technique d'accord civil, et en légiférant, le droit ne témoigne que d'une chose, c'est de du déficit de confiance qu'il a peu à peu dans sa propre force. Bon, on nous a dit littéralement hier que peu à peu, L'État-providence souhaitait aussi s'occuper, contrôler ce qui se passe dans la famille, la part de l'éducation qui n'était pas réglée par le politique, etc. Je crois qu'il y a là quelque chose véritablement d'extrêmement inquiétant. C'est le mot de Deleuze, hein. Nous passons d'une société de discipline, telle que l'avait pensé Foucault, à une société de contrôle, et c'est quelque chose dont on peut trouver l'écho dans l'espèce de moralisation grandissante dans laquelle nous sommes pris. Et en effet, en défaisant les semblants sociaux, en désincarnant la figure de l'autre, petit à petit, le sujet moderne se trouve en proie à une croissance considérable de la culpabilité. Et Lacan disait un déficit de la honte. Il sait ce qui manque, c'est la honte, maintenant. Voilà. Mais cette culpabilité dont on a parlé le premier jour remarquablement, cette culpabilité liée au désir, elle n'a plus d'instance sociale. Il n'y a plus d'instance sociale pour pouvoir la prendre en charge. Autrefois, il y avait tout un tas d'instances qui la prenaient sur le dos, hein, qui la prenaient en charge. Le sujet moderne, il est en proie à une errance quant à son désir. Que faire? Je donne toujours cet exemple, hein, une question qu'un bourgeois du 19e siècle ne serait pas posée. Que faire? Est-ce que je dois quitter ma femme avec qui je m'ennuie, mais j'ai des enfants et je dois assumer mon rôle de père de famille, et partir avec ma maîtresse avec laquelle j'ai du désir, ou même un certain rapport à la jouissance qui devient possible, ou au contraire, est-ce que je dois assumer, bon, bourgeois du 19e siècle, il ne se posait pas la question, il restait à sa place de père de famille, et il installait, quand il avait les moyens, sa maîtresse dans un appartement latéral, et ils se partageaient entre les deux, et ça ne posait aucun problème à personne. Hein, je ne dis pas que c'était bien. Hein, mais aujourd'hui, l'homme moderne, déchiré entre toutes ses émotions, ne sachant plus, puisque ici, dans le livre qu'il vient de lire, on lui dit qu'il faut qu'il aille là où est son désir, là on lui dit au contraire que se séparer, c'est une catastrophe pour les enfants, eh bien, il va voir un psychanalyste pour essayer de répondre à une question que le social ne donne plus, ne prend plus en charge. D'où d'ailleurs la prédiction surprenante, quand j'ai entendu ça en 74, je me souviens, je me disais, il débloque le vieux, hein, Lacan prédisant le retour du religieux, je ne sais pas si vous voyez ce que c'était 74, c'était juste quelques années après 68, on se disait, mais le monde s'ouvre, les choses ont changé, et Lacan prédisant le retour du religieux, on se dit, bon, peut-être que d'ailleurs on est dans cette position en étant très pessimiste, hein, on arrive à un âge, effectivement, il n'y a plus de saison, ça va moins bien, le monde est crépusculaire, c'est aussi un effet de l'âge, il faut bien le dire. Hein. Mais je dois dire que la prophétie, pour le coup, était particulièrement vraie. C'est tout à fait différent de ce qu'est, par exemple, la question du rapport à Jésus, ou la référence que peut faire Lacan au Père de l'Église quand il les lit, ou pour François Dolto, le rapport à Jésus. Là-dessus, Anne Ancelin sera contente d'avoir été entendue, nous avons le projet de mettre en place une journée d'études très sérieuse, précise, sur ces questions-là, et pas seulement celle-là, concernant, alors là, le texte de l'œuvre de François Dolto. Hein, vous serez informé par le circuit habituel. Voilà. Le problème, c'est que cette dimension de l'appel religieux, elle n'a pas été tarie dans notre culture. Elle s'adresse maintenant aux représentants de la science, qui ne veulent rien en savoir. C'est le problème des médecins d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'adresse à eux comme aux magiciens d'autrefois, comme aux chamans. Simplement, ils ne savent plus quoi en faire. D'autant que la médecine aujourd'hui, si vous lisez tout ce qui vient à remplacer les travaux de Baline dans le discours adressé aux médecins, c'est-à-dire tout ce qui tournait autour de la relation médecin-malade. Aujourd'hui, on a une phobie d'un truc qu'on appelle le paternalisme, disent les médecins. Et le mot, je sais, le maître mot de notre époque, ça dit beaucoup de choses. Si on repense, par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, au texte de Deleuze, à la préface de Sacha Mazoche, eh bien, le maître mot de la relation médecin-malade, c'est l'éducation, c'est la pédagogie du malade. L'éducation du malade. Eh bien, les scientifiques qui ne veulent pas le savoir, effectivement, deviennent pourtant l'adresse de cette demande, et ils ne savent pas quoi en faire, et du coup, nous sommes dans un monde où la morale, c'est « ne fume pas », voilà, et « ne fume pas, ne bois pas », etc., et où la maladie est devenue véritablement l'expression de la faute. Or, la médecine, aujourd'hui, est aussi, je donne la médecine comme exemple parce que c'est une question que je travaille particulièrement, la médecine est aujourd'hui, on l'a entendu hier tout à fait sensiblement, porteuse d'une promesse moderne qui est une promesse très compliquée pour nous, qui est la promesse qu'il n'y aura plus d'impossible. La dissociation formidable, l'événement, un des événements les plus grands dans l'histoire de la culture qui a pu arriver dans ces dernières décennies, c'est la dissociation pour la première fois dans l'histoire de l'humanité entre le coït et la procréation. Il y a quelque chose là dont nous ne mesurons pas encore, parce que nous sommes la génération qui l'a vécu, nous ne mesurons pas encore les conséquences subjectives. Et je crois qu'on ne peut pas les deviner, mais en tout cas, ça ne sera pas sans conséquences, quoi qu'on veuille. D'autant que la science n'a pas fait disparaître la pensée magique. Je ne sais pas si vous avez vu, je n'ai pas comme Claude Chaudet amené le film, mais il y avait une publicité faite par cette très jolie jeune femme qui s'appelle Laetitia Casta, qui était une publicité pour L'Oréal. C'était une publicité pour un cosmétique. On la voyait avec un teint resplendissant. Vous savez, le teint que toutes les jeunes femmes veulent avoir, celui qu'on n'a jamais, hein, qui est absolument impossible. Et elle disait, elle vantait un produit, je me souviens plus lequel, et elle disait, sic, hein, je trouve que tout est là, elle disait, c'est pas de la magie, c'est de la science. Voilà. On est, voilà. C'est une question extrêmement importante. Alors, où en est l'enfant aujourd'hui dans ce mouvement, hein, dans cette affaire? Est-ce que ce qui s'est ouvert hier, ou ce que nous avons eu le sentiment de voir s'ouvrir hier, va se refermer aujourd'hui? Est-ce que, comme on l'a dit, le XXe siècle, qui a été celui de la redécouverte de l'enfant, parce que, je rappelle, il ne faut pas être passéiste, si vous écoutez le petit CD qui est en supplément du Télérama, hein, auquel il a été fait allusion hier, des entretiens avec Philippe Ariès, qui sont remarquables, de Françoise Dolto avec Philippe Ariès, Ariès rappelait que le passé, c'était pas joyeux. Il disait, le Moyen-Âge était une époque où on n'aimait pas les enfants, dit Ariès, hein, où l'infanticide était quasiment toléré. On pouvait vendre sa fille si on avait besoin d'argent, hein, ou même si simplement, on pouvait les maltraiter, ou ça n'avait strictement aucune importance. Hein. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le statut de l'enfant a changé, il est en Occident et aujourd'hui plus qu'hier encore, le bien suprême. Hein, mais vous entendez bien qu'un bien, c'est pas un sujet. Hein. Or, l'enfant est devenu le lieu de quelque chose de très particulier, qu'il est devenu le lieu d'une promesse. Le lieu absolu de la promesse. Il faut que nous mesurions qu'avec le messianisme, avec le monothéisme, nous sommes entrés dans une culture de l'histoire. Et ça, c'est bien avant Hegel. Nous sommes entrés dans une culture de l'histoire. Pour les Grecs, par exemple, il n'y avait pas, un enfant n'était pas porteur d'une promesse d'avenir, puisque le monde était immuable. Donc, les choses allaient simplement se répéter, de fois en fois. Pour notre culture, au contraire, quelque chose a changé. Et le problème, c'est que les grands messianismes, le messianisme religieux, même si on peut se réengager dans les religions, on a plus de mal à y croire, même si les messianismes sécularisés, le soir du grand soir, la révolution, le monde enfin infiniment juste, difficile encore aujourd'hui d'y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, les enfants rois d'aujourd'hui, qu'on accuse Dolto d'avoir fabriqué, ont en fait, sont des enfants qui ont un poids considérable à porter. Jamais on ne les a chargés autant. Il y a un livre de Simone Sauce qui est très bien fait là-dessus et qui dit ça très justement. Ils portent un mandat considérable. On est passé de l'enfant, d'une époque où l'enfant était nié, sa parole ne comptait pas. C'était un être sauvage, les pulsions devaient être éduquées et civilisées. À une époque, au fond, il est nié d'une autre manière, puisqu'il est l'objet, pas le sujet, de toutes les projections fantasmatiques qui placent en lui une jouissance imaginaire dont nous sommes tous nostalgiques. Il est devenu le porteur de cette promesse pour nous. Et il est en quelque sorte devenu le médicament généralisé de nos narcissismes blessés par le monde moderne. Un bien, pas un sujet donc. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous voyons bien qu'il y a une nouvelle inflexion, puisque cette jouissance ignorée que nous lui imputons, que nous lui envions maintenant de plus en plus, puisqu'il faut rester jeune, il faut porter sur son corps le témoignage que ce corps ne subit pas les outrages de la façon dont nous avons dépensé le capital qu'il constitue, eh bien, ces enfants nous font peur. C'est ce qu'on lit aujourd'hui dans la presse. D'autant plus que les rôles sociaux adultes ne sont plus très bien définis. C'est très inquiétant, ça, une société qui a peur de ses enfants. Mais c'est ce qu'on nous a dit, et c'est ce qui était donné à entendre dans ce qui a été, voilà, dans l'actualité régulière. D'ailleurs, comme il a été dit dès le début, ce ne sont plus des enfants, ce sont des mineurs. Des mineurs qu'on va traiter en fait comme des quasi-majeurs juridiques, c'est-à-dire que c'est ça la démocratie, hein, c'est tous identiques. C'est un effet de la démocratie et ça c'est une des conséquences de la science. C'est une rançon, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir en arrière, c'est quelque chose qui a à voir avec le monde de l'enfance généralisée dans lequel nous sommes tous rentrés. Certes, il y a la ghettoïsation, il y a la misère, mais nous n'avons pas peur que des enfants de la banlieue, ceux qui brûlent les voitures ou des enfants des favelas, hein, mais nous avons peur également de tous les enfants, puisqu'il y a un appel généralisé à la restauration de l'autorité. Mais l'autoritarisme ne réglera pas le problème de l'autorité. C'est vrai qu'il y a un appel aujourd'hui qui ne concerne pas que les enfants, un appel à la sécurité généralisée, un appel à l'autorité, un appel à ce que l'État prennent une place de plus en plus importante, c'est-à-dire celle dont que nous pouvons discuter, eh bien, il y a un appel collectif, et je crois que ce que j'ai pu entendre ici aujourd'hui, au moins ici, il y en a, hein, peut-être toute la salle, qui vont s'opposer, effectivement, à cette espèce de demande de prise en charge généralisée dont nous payerons extrêmement cher la rançon. Et je pensais, j'ai un petit garçon d'un milieu, ses parents sont des juristes, un petit garçon qui piquait des colères, m'a beaucoup appris pour ça, piquait des colères terribles, contestait toujours les ordres qu'il pouvait donner, il était absolument épouvantable. Donc on me l'a amené, la maîtresse ayant dit qu'il commençait à se profiler, il allait devenir délinquant. Et puis, petit à petit, au bout de quelques séances, les choses allaient beaucoup mieux. Et un jour, il est complètement déprimé, un jour il me dit, mais il y avait 6 ans, il me dit, l'égalité, la liberté, ils parlent de ça tout le temps, mes parents. La démocratie, ils se disent démocrates. Et alors pourquoi j'ai moins de droits qu'eux? Pourquoi je dois leur obéir? Voilà. C'est ça. C'est une question évidente aujourd'hui pour un enfant. Ça ne va pas de soi. Puisqu'au fond, évidemment, ça fait très réactionnaire de dire ça, mais d'une certaine façon, ce que les parents transmettaient, je veux dire, quand on n'avait pas le droit de parler à table dans ma génération ou quand on se taisait, etc., ben c'était comme ça. C'était quelque chose qui ne se justifiait pas. C'était quelque chose qui était fondé. Aujourd'hui, ce qui vient remplacer ce qui fonctionnait comme loi, c'est un appel généralisé à la norme. Et ça, ça va être terrible, évidemment. C'est un grand mouvement de moralisation et des normes auxquelles il faut se conformer. Vous en avez partout. Si vous réfléchissez le nombre de lois qu'il peut y avoir, le nombre de fois dans une journée, vous êtes sur le point de transgresser une règle. Vous téléphonez en voiture, peut-être que là, à ce moment-là, vous avez trop de tension artérielle ou trop de cholestérol, vous avez mangé trop de viande. Vous êtes en permanence en train de déroger à quelque chose qui est une espèce de régulation généralisée des jouissances, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'autres modalités qui tiennent. Et il ne faut pas se faire d'illusions, ce n'est pas un problème des causes, et tout ce qui nous est vendu comme scientifique dans les traitements, ce sont des alibis. On ne sait rien sur rien. La médecine n'a pas fait une découverte fondamentale depuis 20 ans ou 30 ans. Aujourd'hui, le modèle qui prévaut, c'est l'oncologie, c'est-à-dire l'evidence-based medicine. Ce sont des évaluations de protocole. On évalue n'importe quoi, on s'en fout, puisque le problème de l'évaluation, c'est trouver une équivalence chiffrée qui peut finir par être une équivalence en valeur économique. Tout doit se ramener à la valeur économique. C'est la seule valeur, disait Lacan, qui existe aujourd'hui. Et il disait, ce qu'il faudrait peut-être qu'on invente, c'est un message pour nous, c'est quelque chose qui, justement, ne vale rien. Quelque chose qui n'aurait aucune valeur. Eh bien, c'est certainement un des enjeux pour la psychanalyse. Mais tout est ramené à cela, et tout le reste n'est qu'un système généralisé d'alibi fourni par la science. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a un siècle et dont nous sommes, que nous voulions ou non, les héritiers? Freud a inventé un truc incroyable, au fond, en réponse à la formidable subversion que l'avancée de la science produit dans notre société, la cure psychanalytique. Cette méthode est une réponse, je dis bien, et pas une solution au malaise dans la culture. Et je crois qu'il faut rappeler que la psychanalyse n'est pas une panacée, qu'elle n'a pas l'ambition de régler ce malaise et que ce n'est pas dans ses moyens. Nous sommes peut-être un peu en train de nous dégriser parce que je pense que nous le voulions ou non, pour ceux qui ont vécu ces années rêvées des années 60, nous l'avons sans doute cru, même si nous avons dit le contraire. Nous l'avons sans doute cru et Dolto a été une désincarnation de cette croyance, sans aucun doute, même si elle disait le contraire. Vous l'avez entendu ce matin, voilà. Parce que cette transmission, y compris celle dans les médias, s'est faite dans le malentendu. Total. On le voit bien, on en a les effets aujourd'hui. Le message soi-disant, l'enfant d'Olto serait l'enfant d'aujourd'hui qui ne connaîtrait pas l'autorité. Alors, ça a été répété 20 fois depuis le début du colloque. Elle a dit le contraire. On a exactement la même chose sur la façon dont la critique de la psychiatrie asilaire, qui a été un mouvement auquel moi, je me sens pris là-dedans et j'ai beaucoup participé, je ne me sens pas responsable de la façon dont cette critique a été ensuite utilisée comme alibi pour fermer 50 000 lits de psychiatrie, au point qu'aujourd'hui, les parents d'enfants handicapés sont obligés de les envoyer en Belgique, et qu'on vous, aujourd'hui, cherchez à hospitaliser en urgence un adolescent à Paris, vous allez voir, c'est absolument la croix et la bannière. Il faut avoir vraiment, c'est extraordinairement compliqué. Donc on voit bien comment le malentendu et surtout le fait que ce que la psychanalyse soutient ne peut être que mal entendu, ça fait partie de la psychanalyse, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas ouvrir des brèches dans le social constamment, même si ça doit être abattu en permanence sur ce que nous ne pouvons pas soutenir. Alors, nous devons d'autant plus en passer vers la question du public que la psychanalyse n'est pas une pratique privée qu'on devrait opposer à la pratique publique qui serait de parler dans les médias, dans des colloques, etc. Bien sûr, c'est pas la même chose. Ça se passe entre deux personnes. Mais il y a une petite phrase de Lacan que j'ai mis longtemps à comprendre. Lacan disait, qu'est-ce qu'on a fait avec la psychanalyse ? On a opéré le passage du privé au public. Tout le monde, quand on parle de cette phrase de Lacan, pense qu'il s'agit de la passe, hein, puisque c'était des journées sur la passe que Lacan concluait. Ça n'a rien à voir avec la passe. C'est du passage du privé au public. Je dois cet éclaircissement à quelqu'un qui s'appelle Elisabeth Tamer, qui a fait un magnifique travail là-dessus. C'est quelque chose qu'on trouve dans Aristote. Dès qu'on parle à quelqu'un d'autre, on est dans le registre du public, évidemment, puisque c'est le privé, hein, c'est-à-dire la sphère privée, ce que je peux penser en mon fort intérieur et que je ne peux pas me dire, hein, ce que je n'ose même pas me dire, que je rends public en parlant à un autre. À partir de là, c'est dans le circuit public. Non pas parce que l'analyse garde le secret, mais c'est dans le circuit public. Vous le savez très bien, quand il y a un secret que vous confiez à votre meilleur ami, vous savez très bien que vous le mettez en circulation. Hein, il n'y a rien qu'on répète plus volontiers qu'un secret, évidemment. Hein. Et vous le savez très bien, c'est pour ça d'ailleurs que vous lui dites. Hein, parce que les vrais secrets, vous ne les transmettez pas. Hein. Alors, ça c'est un point, je crois, très important, et il faut penser que la psychanalyse n'a pas comme fonction, je crois que c'est un point tout à fait essentiel, n'a pas comme fonction de restaurer un ordre qui se délite, ni d'être la béquille de la culture moderne. Elle n'est pas contre la modernité, elle n'est pas contre la science, et je crois que le joint avec l'action sociale qu'a été la psychanalyse d'enfant, cette particularité de la psychanalyse d'enfant qu'avait prévu Freud d'une certaine façon dès le départ, à laquelle Dolto a contribué bien sûr, est quelque chose qui ne doit pas faire écran au fait que la psychanalyse d'enfant, c'est pas une éducation, même si ça a des conséquences éducatives. C'est ce que disait Dolto ce matin très bien. C'est une expérience radicalement singulière où un par un, et Dolto c'est une œuvre en enseignement, d'ailleurs je voudrais lire quelque chose qu'elle dit le dernier entretien avant sa mort probablement qu'elle ait donné, elle dit « Il y a quelque chose de particulier dans la psychanalyse d'enfants et dans ce que je transmets. Les analystes, ils ont leur analyse, ils travaillent comme ils ont à travailler à partir de leur formation, étant donné l'ordre qu'ils ont retrouvé en eux. Mais il y a une attitude dans le métier, et cette attitude-là, c'est quelque chose qui s'enseigne. C'est pas une idée spontanée ou l'intérêt qu'on a pour les petits-enfants. » Et ça, je crois que c'est un élément très très important, ça a également été dit, et toute l'expérience de Dolto, tout ce qu'on pense de Dolto, tout ce qu'elle peut nous dire, d'une certaine façon, ça a été dit dès la première matinée, c'est quelque chose qui s'enracine dans son expérience de l'analyse. J'ai très vite... Voilà. Alors, certes, il y avait un génie clinique extraordinaire, est-ce que ça se transmet ? C'est un peu la question du mais non, est-ce que la vertu se transmet ? Certainement pas. Et comment 20 ans après, cela pourrait-il se transmettre alors qu'elle n'est plus là et que nous avons, au fond, les traces, les témoignages, ces textes, ceux qui ont travaillé avec elle, etc. Au fond, l'enjeu, c'est de réinventer avec elle, mais pour l'époque, autre chose, la psychanalyse dont a besoin l'époque, hein, c'est-à-dire qui n'est pas nécessairement qui est à la fois la même et toujours différente, suivant chaque moment de la culture. Ça, je crois que c'est un point très très important. La psychanalyse n'est pas hors lien social. Elle constitue elle-même un lien social. C'est en ça que je disais qu'elle était aussi un exercice public. Il n'y a rien de généralisable, c'est vrai. Mais ça dépend de nous, effectivement, parce que la psychanalyse n'existe pas en dehors des psychanalystes ou de ceux qui travaillent avec la psychanalyse. Ça dépend de nous et ça dépend de la façon dont nous saurons réinventer des lieux d'abri ou des lieux pour maranes, des lieux dans lesquels nous pourrons exercer sous couvert de faire semblant d'être psychiatre, médecin, psychologue, universitaire, etc. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Lacan disait que la psychanalyse avait trouvé un abri dans la psychiatrie. Il disait que c'était par hasard. Il n'y avait pas une affinité particulière. Elle n'avait pas plus de raison d'être là qu'ailleurs. Et il faut bien vous le dire, je ne fais pas le devin, mais la psychiatrie va disparaître. La moitié de la psychiatrie va se retrouver dans la neurologie. Moi, j'étais dans un colloque récent avec un des plus grands neuropédiatres français. Et d'un seul coup, pour ma génération, qui avait toujours le souvenir que les neurologues s'occupaient, voilà, quand il y a de pathologies où il y avait une lésion, et les psychiatres, là où il n'y avait pas de lésion, ben, là où on n'a trouvé encore aucune lésion, ce neurologue, très remarquable, un type formidable en plus, a considéré que ça relevait de lui. L'autisme relevait de lui. Les pathologies psychotiques de l'enfant relevaient de lui. Voilà. Et le reste, tout ce qui sera maladie chronique, difficilement traitable, etc., eh bien, ça va relever du travail social. Ça relève déjà du travail social, sauf que c'est pas dit. C'est-à-dire qu'une bonne partie aujourd'hui des patients qu'on trouvait dans les hôpitaux psychiatriques autrefois, on les trouve dans la rue, dans les prisons, dans les squats de Montreuil. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas encore réorganisé sur le plan social pour qu'ils soient pris en charge, mais ça va venir. Il n'y a pas de problème. Mais c'est à nous de tenir les lieux que nous tenons déjà, on en a beaucoup parlé, c'est à nous d'en investir d'autres. Il faut que nous soyons comme une épidémie, une peste, disait Freud. Il faut qu'on aille investir différents lieux. Et la bataille n'est pas terminée. Si vous voulez regarder le dernier numéro du plus important journal de médecine au monde, qui est le Journal of American Medicine Association, The American Medicine Association, un article relayé par le New York Times, qui d'un seul coup expliquait qu'une nouvelle étude avait montré que la psychanalyse était certainement une des psychothérapies les plus efficaces, et d'autant plus efficace quand elle était longue, avec une fréquence très importante de séances par semaine. Vous voyez que, après le rapport sur les psychothérapies de l'Inserm, on a là quelque chose, lisez-le, ça se trouve, c'est dans les derniers numéros. Donc, vous voyez, il faut pas, l'histoire n'est pas finie. Et il y a aussi ce que peuvent faire donc tous ceux qui sont passés par la psychanalyse, mais qui n'ont pas poussé leur analyse jusqu'à devenir psychanalystes, ou qui ont une pratique qui se réfère à la psychanalyse. Le fait d'avoir fait une psychanalyse, ça a des conséquences. Il y avait quelqu'un qui avait, Radmila Zigouris, dans les années 70 à l'école freudienne, avait fait un exposé où elle expliquait comment une femme de ménage qu'elle avait en analyse, qui avait fait une longue analyse, commençait à lui expliquer qu'elle était très surprise parce que les patrons pour lesquels elle travaillait commençaient à venir lui parler, lui confier leurs petites histoires, etc. Voilà. Ça modifie le lien social. Eh bien, c'est très important. C'est un des grands soucis de Lacan. Dans les dernières années de sa vie, quand il s'intéressait à savoir comment l'analyse avait modifié quelqu'un, il s'intéressait plus beaucoup à savoir s'il avait franchi, traversé son fantasme. C'est un témoignage de sa foi. Il s'intéressait de savoir quel journal lisait la personne est-ce qu'il était raciste, par exemple? Comment il traitait sa femme? Voilà un élément très important. Comment s'organisait son mode de jouissance? Voilà. Donc il y a une mobilisation, il y a des poches de résistance, il y a des réseaux, il faut qu'on en crée à partir d'ici, et puis que, voilà, ce qui s'est créé puisse fructifier, des rhizomes à la Deleuze, voilà, des trucs qui tiennent un peu partout et qui nous mobilisent. Je crois que véritablement, bien sûr que nous avons le sentiment d'entrer dans quelque chose qui pourrait être une sorte de fascisation molle avec un contrôle généralisé, c'est vrai. Mais en même temps, ça ne fonctionne jamais totalement. Relisez Braudel. Braudel disait que c'est vrai que le capitalisme est né à la Renaissance, c'est vrai, mais il n'a jamais supplanté totalement l'économie de marché qui le précédait, ni même le troc. Il vous arrive d'aller frapper à la porte de votre voisin pour qu'il vous prête sa perceuse, à charge de revanche, vous lui prêterez votre tondeuse, etc. Ça existe toujours, ces échanges-là, et c'est un point très important. Bien sûr, ce système acéphale avance, mais il prend haute toute part, ça tient pas, il ne totalisera pas. Il y a toujours un effet intraitable du désir. Parce que c'est ça, au fond, qui a été dit dès le début aussi des journées, mais qui a été repris. La psychanalyse traite ce point irreprésentable que la culture veut écraser dans la demande, en nous faisant consommer. C'est le reste de la symbolisation. L'archaïque, dit-on. Mais l'archaïque, ça fait toujours retour. Et peut-être, ça peut être ravageant si c'est non reconnu, ou bien, je vous cite une phrase incroyable de Walter Benjamin, que j'ai trouvé récemment, disait « Le nouveau, ça se construit sur de l'ancien. Et la chance du nouveau, c'est que ce qui a été retranché dans l'ancien, ce qui est encore plus archaïque que l'ancien, revient dans le nouveau comme possibilité de mettre au présent et d'historiser ce qui est encore plus ancien que l'ancien. » Et je crois vraiment que c'est une question pour nous tout à fait essentielle. Si nous voulons bien accepter le déficit de reconnaissance auquel nous sommes confrontés, accepter que la psychanalyse est un os, un grain de sable, que, évidemment, elle est là pour traiter ce qui ne tourne pas rond, elle traite les autres grains de sable, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire un sac de sable derrière lequel on doit se planquer pour se protéger des effets de la culture. Un grain de sable qui s'occupe de ce qui ne tourne pas rond, et il faut le savoir, ça ne tournera jamais rond. Et si nous savons nous tenir à cette place-là, à ce point-là, alors, je crois qu'effectivement, la psychanalyse, et je crois que c'était le vœu de François Tolteau, la psychanalyse pourra se réinventer à partir d'elle, et à partir de ce qu'elle nous a transmis, parce que comme grain de sable, elle se posait là. Il y a quelque chose que je trouvais frappant ce matin dans la manière dont elle parlait. Elle a été véritablement, elle disait, cette formule ahurissante, qui n'est pas mégalomaniaque, elle disait « je suis la psychanalyse ». Eh bien oui, elle l'a été. Elle a été l'indomptable, l'espèce de grain de sable qui s'est mis en travers de la machinerie à réduire les têtes de nos chères petites têtes blondes. Et je crois que si nous tenons à cette place-là, alors la psychanalyse a de l'avenir et ce que nous défendons aussi. Merci.